Bonjour, vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Deux invités aujourd'hui, en seconde partie de l'émission, je recevrai l'historien Dimitri Kassali pour le livre qu'il publie aux éditions Plomb, 100 dates de l'histoire de France qui ont fait le monde. Mais la première partie de cette émission est consacrée à Johnny Hallyday avec un invité, François Julien, qui publie aux éditions Hugo un très beau livre présenté sous forme de coffret intitulé « Johnny, toute une vie » et ce, à l'occasion du 5e anniversaire de sa disparition. Bonjour François et merci de nous accorder cet entretien.
Mais bonjour, bonjour Strasbourg, bonjour, bonjour tout le monde.
Alors Johnny, c'est d'abord un enfant de la balle. Jean-Philippe Smet va monter sur scène très jeune. Vous rappelez dans ce livre qui est remarquablement iconographié, mais qui a aussi une vraie densité littéraire, qu'il monte sur scène pour la première fois en 1948 dans une adaptation du Caligula d'Albert Camus.
Oui, absolument. Johnny, c'est effectivement un enfant de la balle. Il n'a pas eu l'enfance de tout le monde. Il n'a pas été élevé par ses parents. Et donc, il est parti avec sa cousine, sa tante, et qui avait une troupe qui sillonnait l'Europe. Il a séjourné en Italie, à Londres, en Suisse, où il a d'ailleurs appris la guitare. Et il a fait du théâtre. Et il a commencé aussi la chansonnette déguisée en cow-boy. Et voilà, ce qui fait qu'il avait des cours par correspondance. Il n'a pratiquement pas été à l'école, enfin des années complètes. Et c'est effectivement, comme vous le disiez si bien, un enfant de la balle.
Alors, dans les années 60, au début des années 60, il devient l'idole des jeunes. Le succès le rattrape immédiatement.
Oui, absolument. Il y avait un manque, en réalité. Il y avait toutes les idoles à la papa, on pourrait dire, les Jean Sablon, les Maurice Chevalier, etc.
Ils sont un peu ringards au début des années 60.
Ils sont un petit peu un peu à bout de souffle, même si pour Chevalier, ça continuera quand même. Mais effectivement, il y avait besoin d'un rythme nouveau, d'un sang neuf. Alors, Becco, par exemple, l'a très très bien compris, qu'il faisait pas du tout de rock, mais qu'il avait amené de l'électricité, si vous voulez, là-dedans. Mais par rapport aux disques qui venaient des États-Unis, les Cochrane, les Presley, etc., Johnny et d'autres ont été la réponse française à ça, et c'est Johnny qui a tiré le gros lot, puisqu'il a été effectivement idole dès le tout début des années 60, pour ne jamais pratiquement redescendre de ce piédestal jusqu'à sa disparition en 2017, oui.
Premier album qui sort le 31 octobre 1960, premier concert à l'Olympia, salle mythique, le 20 septembre 1961, et l'année suivante, en 1962, début au cinéma, dans un film à sketch, Les Parisiennes, avec Catherine Deneuve. Alors ça, c'est un aspect de la personnalité de Johnny que nous pourrions développer quelques instants, François. C'est Johnny, l'acteur, c'est ce qu'il aurait voulu faire, plus que la musique.
C'est pas ça, c'est qu'il a découvert le rock, il a eu envie de chanter du rock en voyant Elvis à l'écran, tout simplement. Il a vu Elvis Presley dans les années 50 au cinéma, et c'est ce qui lui a donné envie de chanter. Et puis, avant Les Parisiennes, avant ce film à sketch, n'oublions pas qu'il a joué un rôle, certes minuscule, mais quand même, dans un des classiques du cinéma français, qui est Les Diaboliques de Clouseau. On le voit le temps de quelques secondes, mais voilà, le cinéma naturellement l'a tout de suite adoré ça, ça l'a tout de suite aimanté, et force est de constater que bon, il a eu plus d'années de métier et de vie sur Terre, mais que sa filmographie est tellement plus impressionnante que celle d'Elvis Presley, qui était l'un de ses modèles.
Puis Elvis, c'est un peu répétitif et un peu dépassé assez rapidement.
C'est-à-dire que son manager, le colonel Parker, a senti les pépettes et qui lui a fait signer des contrats à Hollywood où on lui demandait juste de chanter. Enfin, c'était juste le prétexte, c'était qu'Elvis chante 2-3 chansons dans des films au scénario parfois insipide. Alors c'est amusant un petit peu avec le recul, mais il n'y a pas de grands films. Il n'y a pas L'homme du train de Johnny, par exemple, qui est un très grand film. Il n'y a pas ça chez Elvis. Elvis était avant tout un chanteur.
1964, Johnny est au service militaire en Allemagne, à Offenburg, à une trentaine de kilomètres à peine de Strasbourg. Il est même nommé sergent.
Oui, alors... Là, c'est un peu une répétition de ce qu'a fait Elvis en 59. C'est-à-dire que on a beau être un rocker considéré comme un voyou ou pas loin, on en est quand même un bon patriote. Et Johnny, qui aurait pu se faire évidemment, comment dit-on, j'ai oublié le mot, se faire, enfin, passer
réformer.
À côté de ça. Réformé, voyons, mais bien sûr, réformé, a tenu à effectuer son service national, et il était tout à fait heureux quand il a reçu ses papiers d'incorporation, et voilà, donc ça a été un peu vite, il est un peu monté en grade, probablement un peu plus rapidement que les autres, on dira, mais il en a été tout à fait ravi, oui.
Alors c'est vrai qu'il y a un mimétisme, du moins dans les premières années de la carrière artistique de Johnny Hallyday par rapport à Elvis Presley. Régine raconte qu'elle aurait organisé dans l'un de ses établissements parisiens une rencontre un peu furtive entre Elvis Presley et Johnny. Vous avez confirmation de cela ?
Pas du tout. Elvis est arrivé, c'est drôle parce qu'il est arrivé le 15 juin 59, alors je suis pas historien comme vous, j'ai pas les dates et j'ai pas les papiers devant moi, mais je me souviens très bien, il est arrivé le 15 juin 1959 pour la première fois à Paris, où il a pas chanté, il a dû pousser la chansonnette avec André Pousse à la locomotive, et c'est le jour où Johnny a reçu son certificat de rocker au Golf Draw, mais ils ne se sont pas rencontrés du tout. Mais pas du tout. Et Régine a raconté ça, mais je n'en ai absolument aucune confirmation.
Le 12 avril 1965, mariage avec Sylvie Vartan à Loconville, modeste commune du Vexin. Un mariage qui durera jusqu'à la fin des années 1970.
Oui, alors un mariage avec des hauts et des bas, et déjà un mariage surmédiatisé. C'est ça qu'il faut bien se rappeler avec Johnny, c'est que ça a été le Français le plus photographié de 1960 à sa disparition. Et on a médiatisé complètement son mariage, ça devait être secret, puis il y avait 300 journalistes, 200 photographes, 2000 badauds, enfin dans un petit village, quoi. Les photos sont
assez... 300 habitants, Loconville.
Oui, 300 habitants, et ça a triplé la population, comme Saint-Tropez au mois d'août, si vous voulez. Les photographes étaient planqués sur le toit de l'église, enfin, la mairie, on pouvait plus y rentrer, et ça a été vraiment la première surmédiatisation de Johnny. Mais son service militaire aussi avait été médiatisé, mais enfin... Tout a toujours été comme ça avec lui. Ça a été médiatisé parce qu'il était entouré de gens qui savaient exactement comment communiquer, plus ou moins bien parfois.
Le 14...
Oui,
excusez-moi, François.
Non, pour en terminer, on n'en terminera jamais, mais le mariage avec Sylvie a été, des hauts, des bas, parce que quand on a 20 ans, quand on est une idole, y a plein de choses, il y a plein de filles qui viennent sonner chez vous, il y a plein de plein d'alcool, pas mal de drogue, et voilà, donc ça n'a pas été un long fleuve tranquille.
le 14 juin 1967, Johnny est au départ du rallye de Monte Carlo. Ça, c'est un aspect de sa vie qui est moins connu. Johnny a été un excellent coureur automobile. Il a fait le Paris-Dakar.
Oui, il a fait le Paris-Dakar deux fois. Il a fait le rallye Monte-Carlo. Il l'a fait deux fois aussi de mémoire. Il a fait d'autres trucs. C'était un fou de vitesse. Un fou de bolide, que ce soit à deux ou quatre roues. Il a été, quand il y avait une Ferrari qui sortait à Maranello, il voulait être le premier à l'avoir en France. Et bien souvent, c'est lui qui l'avait. Je veux la nouvelle Lamborghini. Pam, il l'avait. Et puis, il la pliait trois jours après dans un arbre parce qu'il conduisait très, très vite. Il conduisait bien, mais il conduisait très, très vite. Ce qui a valu cet accident de voiture dans lequel Sylvie a été défigurée. Elle a toujours une sacrée cicatrice. C'était un fou de bagnole, un fou de moto. Il y a des livres entiers là-dessus sur ce simple sujet parce qu'il a été un fan de mécanique, oui, et de vitesse.
Bon, accident de voiture qui se produit, si mes souvenirs sont bons, du côté de Belfort.
Exactement.
Un soir de tournée, mais la route était très verglacée.
Oui, mais ce qui s'est passé, c'est qu'alors il avait un garde du corps secrétaire, Sacha Roule, qui c'est lui qui conduisait, quoi, et puis qui menait Johnny. En l'occurrence, il y avait Sylvie aussi, mais il y avait un autre musicien dans la voiture qui les conduisait d'une ville de concert à la suivante. Et puis il prend le volant, il fait froid. On est en janvier, je crois. Et Johnny, au bout de 2 km, il dit « Bon, écoute, passe-moi le volant parce qu'on n'y sera jamais. » Et puis, il est parti comme un... Voilà, il est parti à fond. Et puis, il a ripé sur une plaque de verglas. Lui n'a rien eu. Si lui a été la plus salement amochée, elle a fait des mois à New York pour réparer ça. Mais ça se voit toujours. Hein. Ça se voit toujours, sa cicatrice. Hein.
Les années 1970, c'est la période de la transformation de Johnny à tout point de vue. Et au début des années 80, on retrouve un Johnny musclé qui réalise un spectacle tout à fait extraordinaire dédié à Mad Max.
Alors dédié, je dirais plutôt un peu pompé à Mad Max, à cet univers-là. Mais effectivement, il se prend en charge physiquement. Bon, son modèle, même plus ou moins avoué, c'est Bernard Lévillier, hein. C'est-à-dire le débardeur, la salle de muscu, l'anneau dans l'oreille. D'ailleurs, ils sont très potes à l'époque. Et effectivement, il fait des shows de plus en plus démesurés. Mais ça, il le fait depuis la fin des années 60, depuis qu'il a investi le Palais des Sports. Il a des aires de jeu de plus en plus grandes, et il faut les remplir, ces aires de jeu. Et donc, il fait des spectacles, il y a de la pyrotechnie, il y a de la boxe, il y a des tas de choses. Et il y a effectivement ce spectacle... entre guillemets Mad Max, avec les haches, les fourrures, le cuir, le sang, enfin oui, c'est tout à fait saisissant comme spectacle.
Le 15 novembre 1983, c'est la naissance de Laura, la fille de Johnny et Nathalie Baye. C'est une étape, je dirais, vers l'équilibre de vie qu'il recherche un peu désespérément.
Oui, et qu'il ne va pas trouver... Nathalie Baye, tout le monde est étonné quand ça arrive, parce qu'on a Johnny un peu, on va dire bourrin, un peu rocker, un peu brut de décoffrage, un peu blouson noir toujours. Et puis Nathalie Baye qui est effectivement, elle lui a amené peut-être une aura un petit peu plus intellectuelle. Les gens commencent à se dire. Ils se sont dépincés le nez, si je peux dire. Ah oui, tiens, Johnny, finalement, ah ben il est pas si mal que ça chez Godard. Ah bah oui, etc. Mais l'histoire, aujourd'hui incarnée évidemment par Laura, n'a pas duré très longtemps. Et il en est revenu toujours à ses mêmes démons, évidemment.
Tournant artistique majeur, le 26 juin 1985 sort l'album Rock'n'Roll Attitude, écrit par Michel Berger. Alors là, c'est une collaboration a priori improbable.
Oui, mais ça fait partie de cette de ces années 80 où on commence à le regarder un petit peu différemment, Johnny. Ah ouais, c'est un type sérieux, c'est un il chante des choses, c'est plus d'adou ronron forcément, alors qu'il a fait bien évidemment d'autres choses, et des chansons tout à fait et il donne les clés du camion à Berger et c'est un disque formidable. C'est un disque formidable. C'est une des périodes bénies de Johnny, oui. Et on lui ouvre les colonnes de journaux qui jusque-là regardaient avec dédain, oui, évidemment.
L'album suivant qui sera écrit par Jean-Jacques Goldman et qui sort à la fin de l'année 1986.
Exactement, et puis il y a Rod Agile aussi qui a mis sa contribution à l'œuvre de Johnny. Oui, bien sûr, mais de toute façon, Johnny avait besoin de ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'écrivait pas ses chansons. Alors, vous avez des tas de chansons, une centaine, je crois, qui sont coécrites par Johnny, ce qui lui permettait de recevoir des royautés, mais qui, en fait, n'étaient pas vraiment écrites par lui. Quoi. On mettait son nom par sympathie.
En juin 1993, Johnny a 50 ans. Et c'est l'occasion de trois concerts exceptionnels au Parc des Princes.
Ben oui, surtout le premier. J'étais au premier comme des milliers d'autres. Mais on ne savait pas. On ne savait pas ce qui allait se passer. Naturellement, les soirs 2 et 3, ben, voilà, ça avait été raconté dans les journaux le lendemain, donc on savait. Mais quand on a compris... Alors qu'il faisait encore jour, hein. Ça commençait de jour et ça se terminait de nuit. Quand on a compris que Johnny, entouré de quatre bons hommes, traversait la foule du Parc des Princes, traversait comme un gladiateur pour rejoindre la scène, on s'est dit « Oh là !» Là, c'était incroyable. Bah, c'était Moïse qui traversait la mer, quoi, sauf que la mer n'était pas au courant. Et quand vous avez des dizaines de milliers de personnes comme ça qui voient Johnny arriver, qui sont fans, il peut y avoir vraiment l'accident. D'autant qu'il était habillé, il avait un costume en cuir extrêmement lourd. Et donc ça dure 12 minutes. C'est énorme. Camus me l'a raconté. Ils se sont dit, il est vraiment dingue. Là, il n'y a pas d'effet de pyrotechnie, c'est juste un bonhomme tout seul qui traverse la foule, et c'est sa plus belle arrivée en scène, à mon goût, enfin la plus impressionnante. Et le show, après, effectivement, est incroyable, avec le pont, avec Sylvie qui arrive en voiture, avec les duos avec Eddie Mitchell, Paul Persson qui vient prendre des solos, pas possible, enfin oui, c'était Happy Birthday Johnny, oui.
Le 25 mars 1996, il épouse Laetitia Boudou à la mairie de Neuilly. C'est Nicolas Sarkozy qui officie.
Oui, absolument.
Qu'est-ce que Laetitia lui a apporté ?
Énormément de choses. On pourra dire, vous avez demandé aux fans de la première heure ou pas, ou à la femme de sa vie, bah, beaucoup vous diront Sylvie. Celle qui l'a transformée, beaucoup vous diront... Nathalie, il y a toutes les autres, mais on va pas faire un spécial fan de Julie. Mais Laetitia, elle a tout changé, tout simplement. Tout simplement. D'abord, c'est elle qui est restée le plus longtemps avec lui. Une vingtaine d'années, quand même. Elle lui a donné une vie de famille, ce qu'il n'avait pas connu gosse, on en a parlé. Et ce qu'il n'avait pas vraiment connu avec ni Sylvie ni Nathalie. Une vraie vie de famille. Avec des vrais ports d'attache, que ce soit Marne-la-Coquette, Gstaad, Los Angeles, Saint-Barth. Et elle a fait de lui un chanteur qui rapportait de l'argent, ce qui n'avait pas été le cas vraiment. Il rapportait de l'argent, mais il dépensait tout, et là, elle en a fait quelque chose. Bankable, comme on dit aujourd'hui. Et puis le public a changé. Il y a toujours eu des fans, mais il y a eu un public branché qui venait voir Johnny, ce qui n'était plus arrivé depuis les années 70, j'ai l'impression. Elle a vraiment changé le... Je crois qu'il est arrivé à une plénitude avec elle.
Parce que quand il rencontre et quand il l'épouse, c'est une gamine.
Oui, c'est une gamine. Il la rencontre à l'Amnésia, à Miami, où son père, André, a créé une boîte de nuit formidable, puisque en plein air, enfin sans toit. Et oui, c'est une gamine qui a des bouclettes, à la Shirley Temple. Et puis voilà. Et puis ça marche. C'est pas juste un vieux qui se tape une jeune. C'est même pas ça, parce que il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc. Elle l'a transformé totalement. Elle a fait aussi un peu le ménage. Et beaucoup de fans lui ont reproché autour de lui. Elle a fait le ménage. Il y a plein de gens qui ont été virés. Il a changé de maison de disque, il a vraiment gagné beaucoup de fric, et il a fait des films formidables aussi pendant cette période-là. Non, c'est une période bénie. Mais il a aussi, ce que je disais en préambule, elle lui a donné une vraie vie de famille. Ce qui fait que pendant des années entières, il a pas tourné. Hein,
il a enfin trouvé son équilibre.
Oui, absolument.
François Julien, nous arrivons au terme de cet entretien, mais je voudrais que nous évoquions encore un événement important dans la carrière artistique de Johnny, peu de temps avant sa mort, c'est la tournée des Vieilles Canailles, avec Jacques Dutronc et Eddie Mitchell.
Oui, c'était une tournée, la deuxième. Le projet était fou, c'est Zetoun qui avait eu cette idée-là, et puis voilà, Dutronc le faire décoller de son île, de la Corse, c'est pas évident. Eddie aussi, un peu casanier, enfin voilà. Et puis Johnny, pas forcément très en forme. Et puis finalement, si, et ça a marché, première tournée, ça a marché. La deuxième, n'oublions pas que la deuxième... Les coulisses étaient médicalisées. Il était, c'était 4 mois avant sa disparition. C'est-à-dire le cancer était déjà très, 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 très avancé. Mais une fois que Johnny entrait sur scène, c'était fini. C'était fini. Personne ne pouvait savoir que derrière, il y avait 2 médecins, une tente à oxygène. Enfin, tout était prêt, quoi. L'ambulance qui attendait et tout. C'est une tournée incroyable. Incroyable. Mais de toute façon, dans quelque état qu'il se soit trouvé, dès qu'il était sur scène, et c'est pareil pour plein d'artistes, hein, les Stones, c'est la même chose. Pensez quand même qu'ils n'ont pas besoin financièrement de tourner à 75 ans. Hein. Non, c'est la scène transfigure. Et transfigurait Johnny, évidemment.
François Julien, merci beaucoup pour cette merveilleuse évocation du parcours de vie de Johnny Hallyday. Je rappelle le titre du coffret que vous publiez aux éditions Hugo, Johnny, toute une vie. C'est le parcours, année après année, de ses 60 ans de carrière, et avec une iconographie tout à fait remarquable, des textes tout à fait à propos, et c'est une belle idée cadeau pour les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. Nous allons écouter Johnny avec un titre de 1971, « Que je t'aime ».
Dans tes cheveux s'étale comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur des montagnes, des forêts et les îles au trésor. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Oh, Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux, d'un seul coup n'est plus pur. Quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non, d'une toute petite voix. Que je t'aime. Quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes. Quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui. Que je t'aime. Moi je t'aime. Quand mon cœur sur ton cœur, lourd comme un cheval mort, ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt et qui la perd. Que je t'aime. Je t'aime.
Voilà, second invité de cette émission passé présent, Dimitri Casali, pour le livre qu'il publie aux éditions Plomb, 100 dates de l'histoire de France qui ont fait le monde. Merveilleux parcours à travers l'histoire de France, du Moyen-Âge à la période contemporaine. Votre livre s'ouvre avec la première expression de l'art gothique, qu'il faut qualifier d'art français ou d'art francilien, puisque le berceau en est singulièrement l'abbaye Saint-Denis. Nous sommes le 11 juin 1144 et il se referme avec l'incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, l'un des fleurons de cet art français. C'est assez intéressant de mettre ces deux lieux et ces deux dates en perspective.
Et oui, tout à fait.
Pour traduire l'expansion et puis le déclin français. Parce que c'est ça l'idée.
Eh oui, l'idée, exactement. Vous avez bien saisi, c'est ça, c'est exactement le livre. Voilà, commence en 144 jusqu'à nos jours, et à chaque fois, chaque date est mise en perspective un peu avec aujourd'hui pour voir tout ce que l'on a perdu, malheureusement. Parce que même si la France a beaucoup apporté au monde, ça c'est une vérité que je voulais rétablir et qu'on oublie toujours, mais aussi on dit toujours que la France est le pays des droits de l'homme, certes, hein, j'en parle beaucoup, mais je voulais aussi insister sur le pays des arts et des lettres. Et c'est ça aussi qui a fait rayonner la culture
française. Et des sciences, Dimitri.
Et des sciences, voilà, puisque je parle beaucoup de nos inventeurs, de nos médecins coloniaux en particulier, qui ont éradiqué de nombreuses maladies infectieuses. Mais c'est vrai que, pour moi, je voulais quand même aussi, bien sûr, plonger l'origine de la France dans ses racines chrétiennes, qui sont, comme vous le savez, toujours complètement oubliées, évaporées, évacuées. Et donc, c'est vrai que de commencer par cet art gothique que on appelait à l'époque l'art français, hein, c'est rappeler que la France est le pays des cathédrales et que ces cathédrales ont rayonné ensuite cet art français.
Né en Île-de-France.
Voilà, de Séville en Espagne jusqu'en Lituanie, on appelait ça l'art français. Et c'est vrai que c'est une fierté, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a de nombreux élèves, je suis toujours très proche de la pédagogie et de l'éducation, et il y a de nombreux élèves qui refusent de rentrer dans une cathédrale pour visiter cathédrale, pour plusieurs raisons, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais ça me rend malade. Et voilà, donc je voulais vraiment affirmer que la France était le pays des cathédrales, et malheureusement, comme vous venez de le dire, 2019, l'incendie de Notre-Dame, et pour moi, c'est vraiment le signe de la déliquescence, de la négligence, je le dis, de la ville de Paris en particulier, mais du ministère de la culture aussi. Vous rendez compte, c'est pas possible, on n'a pas le droit de laisser brûler nos cathédrales en 2019 et encore moins en 2022, ça c'est sûr.
Le 24 juillet 1534, Jacques Cartier ouvre la voie à l'Amérique française. C'est une France qui voit bien plus loin que le continent européen, qui s'ouvre des perspectives à travers le monde entier, d'autant plus que le 10 novembre 1555, un peu plus de 20 ans plus tard, la France s'installe au Brésil. Et ça, c'est un événement qui est nettement moins connu.
Oui, je voulais rappeler à la fois les grandes dates de l'expansion coloniale française, du premier empire colonial français en Amérique du Nord en particulier, mais aussi des dates plus oubliées, comme cette tentative de colonisation du Brésil qui a avorté malheureusement très rapidement. Au bout de 5 ans, les Français sont restés que 5 ans en baie de Rio de Janeiro. Alors ce qui est amusant et toujours attrayant, c'est que de nombreux lieux ont gardé des noms français, comme l'île de Villegagnon, donc qui porte le nom de ce marin qui a installé cette France équinoxiale, comme on disait à l'époque, pendant 5 ans en baie de Rio, et le fort Coligny, aujourd'hui, toujours en baie de Rio, ces noms sont restés, et Coligny était justement l'amiral de France qui avait lancé cette expédition en Amérique du Sud. Mais j'insiste beaucoup, comme vous l'avez vu, sur les dates sur l'Amérique du Nord, ou avec de nombreuses dates, parce que là, il faut rappeler cette tentative de colonisation de toute l'Amérique du Nord, puisque vers 1750, un cinquième des États-Unis était français, occupé par des forts français, avec une extrêmement belle alliance avec les populations indiennes, et ça nous différenciait des Britanniques qui étaient beaucoup plus durs et plus cruels que les Français. D'ailleurs, des Colbert, les édits de Colbert permettaient les mariages interraciaux avec les Indiennes, et surtout Colbert interdisait formellement toute violence envers les populations indiennes. Donc vous voyez, ce Colbert, c'est pas le criminel colonialiste qu'on essaie de faire passer aujourd'hui, comme vous le savez. Il y en a même qui veulent déboulonner sa statue devant l'Assemblée nationale.
Et c'est Napoléon Bonaparte, alors premier consul, qui a bradé ces territoires.
Eh oui, c'est malheureusement un de mes personnages historiques favoris qui a fait cette erreur stratégique. Alors bon, je connais très bien la question, c'est sûr qu'il y avait des raisons sérieuses aussi au niveau géopolitique et surtout maritime, puisque c'était la suprématie de la Royal Navy ne nous permettait plus des communications faciles avec l'Amérique du Nord à cette époque de guerre totale avec l'Angleterre. Mais c'est vrai que ça a été une erreur de sa part, et surtout on aurait pu essayer de maintenir une empreinte française un peu plus tardive. Peut-être que ça aurait donner le goût de la langue française, parce que c'est ça aussi, le français aurait pu prendre une expansion beaucoup plus grande si nous étions restés en Louisiane qu'après notre départ. Malheureusement, c'est vrai que maintenant c'est l'anglais qui occupe la langue anglaise qui occupe une place universelle. À notre place, voilà.
C'est 13 avril 1598, Henri IV signe l'édit de Nantes et vous y voyez les prémices de la laïcité.
Et oui, c'est ça qui est fondamental, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où la laïcité est remise en question chaque jour, hein, vous voyez, moi je travaille beaucoup avec des collèges et des lycées, mais c'est dramatique ce qui se passe, hein, avec l'apparition du voile dans les écoles et dans les classes. C'est pas possible qu'on permette ça au pays qui a inventé la laïcité. Et les prémices de cette laïcité sont d'abord religieuses, encore une fois, hein, puis dès 1302, Philippe IV, le Bel, se dégage de l'emprise papale. Il y a cette volonté, encore une fois, d'indépendance dont je vous parlais tout à l'heure, d'être très très cher aux Français, de se libérer des emprises et des limites. Voilà, se libérer des limites religieuses. Et donc, Henri IV, 1598, avec cette merveilleuse édit de Nantes, est un des premiers, si ce n'est le premier, je le dis d'ailleurs, j'ai essayé de voir si c'était pas le premier souverain au monde, hein, à faire coexister deux communautés religieuses pacifiquement.
Il y a un précédent, Dimitri, quand même, si on regarde du côté de la Pologne.
Ah oui, la Pologne. Ouais.
Avec la paix des dissidents,
qui accorde
un statut aux protestants, luthériens et surtout réformés.
Mais selon...
Et c'est un peu plus tôt, hein, c'est 1572, ouais, si mes souvenirs sont exacts.
Mais selon les cités, alors que là, c'est vrai que le sujet, Henri IV voulait que le sujet royal, le serviteur, il fait la différence entre le serviteur de l'État qui doit obéissance à l'État français. Il dit bien l'État, on voit bien que cette importance de l'État français qui existe, préexiste bien avant la Révolution, hein, ça j'insiste toujours, par rapport justement aux croyants et aux croyances religieuses. Voilà, c'est vrai et c'est là qu'on peut, on peut dater les prémices de la laïcité, qui vont bien sûr être à approfondir, en particulier par le grand Voltaire, avec le traité de la tolérance, hein, 1753, et ensuite par la Révolution française, bien sûr, mais aussi par la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, ça c'est sûr. Mais vous savez que la laïcité est pratiquement une spécificité française. Il n'y a guère, je le dis, que le Japon, j'ai découvert ça, et l'Inde, qui sont des pays laïcs aujourd'hui. La Turquie l'était, mais comme vous le savez, elle est en pleine remise en question de sa laïcité du grand Mustafa Kemal Atatürk. Et aujourd'hui, on ne peut plus dire que la Turquie est un pays laïque, malheureusement.
Et ça, c'est 8 juin 1637, René Descartes, avec le célèbre discours de la méthode, révolutionne la pensée occidentale.
Oui, c'est fondamental, encore une fois, cette volonté, c'est la date, je pense, donc je suis. Ce doute cartésien, hein, est absolument l'expression aussi de l'esprit français, hein, cette volonté de remettre en doute, c'est de se questionner. C'est vraiment parallèle à ce goût de l'aventure qu'ont développé les Français, ce goût de dépasser ses limites. Et c'est vrai que ce goût de se poser des questions, et bien sûr, comme vous l'avez dit, avec le progrès de la science. C'est vrai que Descartes est un grand scientifique aussi. On voit à la fois le philosophe et le scientifique, et c'est vraiment ça qui caractérise l'esprit français aussi, avec toutes ces merveilleuses découvertes dont je parle dans ce livre qui fait quand même 360 pages, tellement la France a apporté au monde.
24 octobre 1648, c'est la signature des traités de Westphalie, car il y en a deux, qui mettent un terme à la terrible guerre de 30 ans. Et vous dites que le français devient ainsi la langue universelle.
Et oui, c'est dans la suite de ce que je vous disais sur la possession de l'Amérique du Nord. C'est vrai que à cette époque, dès 1648, hein, puisque la plupart des négociations des traités de Westphalie se fait en français, et cela va durer jusqu'en 1919, hein, puisque les négociations du traité de Versailles aussi, après la Première Guerre mondiale, se font encore en français, et malheureusement, c'est terminé ensuite, puisque l'anglais va remplacer le français dans cette langue des négociations diplomatiques, et aussi, bien sûr, dans cette langue de tous les jours, et c'est vraiment bien dommage, et il faut absolument, vous l'avez vu, je défends beaucoup la francophonie, avec aussi le grand Léopold Sédar Senghor et tout, qui avait beaucoup d'idées autour de la francophonie, et malheureusement, on voit bien que le flambeau aujourd'hui, puisque à chaque fois je remets en perspective avec aujourd'hui, on voit bien qu'on capitule, qu'on baisse l'étendard face à l'anglais. Regardez, je le dis, même le président Macron n'arrête pas d'utiliser des anglicismes à tout va. C'est une stupidité sans nom, c'est pas possible. Il faut maintenir haut le flambeau de la langue française, qui est toujours la cinquième langue parlée dans le monde, la langue de travail de l'ONU, la langue aussi de travail de l'Union européenne, la première langue du comité olympique, hein, grâce à Pierre Coubertin. Il faut quand même se battre pour défendre notre place dans le monde. Et malheureusement, si nos hommes politiques se mettent aussi à parler anglais d'une manière assez stupide, il faut le dire, hein. Il peut quand même utiliser des équivalents français, je trouve.
Vous avez parfaitement raison. Et voilà, rappelons aussi qu'au XVIIIe et au XIXe siècle, les cours européennes parlaient français.
Eh oui, c'est ça, c'est dommage de ne pas avoir pu entretenir cette flamme. On voit très bien, quand je parle aussi de Molière, vous avez vu que dans les pays arabes, jusque dans les années 80, récemment, donc les pièces de Molière étaient jouées, que ce soit au Liban, en Syrie, au Maroc, partout. Mais depuis 20 ans, c'est terminé. C'est terminé parce que d'une part, il n'y a pas cette volonté politique forte de promouvoir le français partout à travers le monde et surtout dans nos positions où nous étions déjà favoris, mais enfin aussi par le peu de moyens financiers. Et ensuite, il y a aussi cette idée de soft power, vous savez, d'imposer la culture française grâce à des instruments comme le cinéma, par exemple. Regardez, il n'y a aucun film français fait à la gloire de nos rois de France, de cathédrales tout à l'heure, qui pourraient être exportées à l'étranger, parce que les étrangers sont les vrais amoureux de la culture française, se trouvent à l'étranger et non pas en France. Et c'est contre ça qu'il faut se rebeller, il faut cesser cette repentance et cette culpabilisation. On a vraiment une des plus belles cultures au monde et il faut la défendre à tous azimuts.
Le 13 juillet 1669, Jean-Baptiste Colbert crée le luxe à la française.
Eh oui, et ça encore, on s'aperçoit, mais c'est fabuleux l'histoire de France, parce qu'on s'aperçoit que c'est une volonté royale, hein, grâce à Louis XIV derrière, mais c'est Colbert qui l'a mis en œuvre, cette industrie du luxe française, comme je le dis dans l'introduction, est toujours, en 2022, le second secteur industriel français. Donc c'est grâce à Louis XIV et à Colbert, cette volonté de créer le luxe à la française qui va, que ce soit dans le domaine de la tapisserie avec les Gobelins, des miroirs avec Saint-Gobain, c'est cette volonté royale d'un seul homme ou de deux hommes, hein, qui va donner cette prépondérance mondiale. Hein. Regardez LVMH aujourd'hui, c'est grâce à cette tradition française qu'il faut maintenir. Il n'y a que l'aéronautique qui est un secteur industriel plus puissant que le secteur du luxe en France. Alors, et donc c'est vrai que quand on voit ça, on se dit gloire à nos rois et gloire à Colbert encore une fois.
Parlons-en de l'aéronautique. Le 9 octobre 1890, Clément Adère invente l'avion. L'avion est bien une invention française.
Française, et oui, puisque c'est le premier engin motorisé à décoller, même s'il n'y avait pas de pilote à bord, hein, par rapport aux frères White aux États-Unis en 1903, qui vont effectivement effectuer le premier vol pilotée, mais c'est une invention française. Et encore une fois, on voit bien que grâce à ces grandes inventions françaises, on va développer le premier secteur industriel français, l'aéronautique, hein, avec que ce soit depuis toujours, avec les magnifiques Caravelles, hein, Airbus aujourd'hui, effectivement. C'est une spécificité française qui plonge ses racines dans l'histoire. Et encore une fois, il faut vraiment le défendre vraiment très, 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 très fort et très par rapport à la concurrence américaine en particulier. Mais regardez ce qui se passe avec la filière nucléaire. Pareil, on avait, grâce à Marie Curie, cette invention de la filière nucléaire française, grâce aussi, bien sûr, à sa fille Irène et son mari Frédéric Julio Curie, qui va créer... aider à créer le commissariat à l'énergie atomique en 1945, on avait pu développer une industrie nucléaire extraordinaire. Et malheureusement, vous êtes bien placé pour le savoir, Fessenheim a été fermé la bêtise, la stupidité de François Hollande et même des ministres.
Et d'Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, n'en parlons pas, bien sûr. Et il n'a même pas vu ce manque de vision. Avant, nous avions des personnages historiques fabuleux qui étaient capables d'être des visionnaires. Aujourd'hui, cette histoire de nucléaire, de filière nucléaire complètement détruite, hein, depuis, ça avait commencé avec Lionel Jospin en 98, lors de la cohabitation avec Dominique Voynet, avait déjà mis fin au fameux plan Messmer, qui avait donné l'indépendance énergétique à la France. Vous vous rendez compte dans quel pétrin nous nous sommes mis? Tout ça par la faute des écologistes, vraiment, et de nos hommes politiques. C'est d'une stupidité sans nom.
Dimitri, nous arrivons malheureusement au terme de notre entretien. Je suis contraint par le chronomètre, mais je voudrais quand même qu'on évoque encore une dernière date qui, pour moi, est tout à fait fondamentale, puisqu'elle incarne une belle idée, celle de l'Europe. C'est le 9 mai 1950, la fameuse déclaration Schuman depuis le salon de l'horloge du Quai d'Orsay. C'est la genèse de l'Union européenne.
Et oui, parce que malgré tout, il faut, même si j'explique à travers ce livre combien la France est grande ou fut grande, il faut absolument faire l'Europe. Je reste un Européen convaincu, parce qu'aujourd'hui, si nous voulons résister un tant soit peu à des puissances comme la Chine, la Russie, et puis les Américains, hein, qui sont quand même redoutables, même si prétexte d'être nos alliés, il faut absolument faire l'Europe et se rapprocher de tous nos voisins européens. Et ça, je tenais vraiment à le mettre dans ce livre pour montrer que... mais bon, il faut vraiment... C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, hein, sur l'Union européenne, mais on s'y prend pas très bien. Et actuellement, nous sommes en pleine crise avec ce scandale, hein, du Qatar Gate. C'est bien malheureux, mais... En plus, ça vient du côté du Parti Socialiste Européen. Ça, c'est quand même fou quand je lis ça, alors qu'il nous donnait des leçons. Parce que, comme vous le savez, malheureusement, Jacques Chirac a refusé d'inclure les racines chrétiennes dans la Constitution européenne. Et ça, on voit bien qu'il y a quand même un grave problème avec certains hommes politiques et certains partis politiques en particulier pour construire cette Europe. Cette belle Europe qui peut prendre son envol, mais à condition qu'on soit clair et qu'on affiche clairement nos racines et notre avenir et notre but. Ça, c'est sûr.
Dimitri Casali, je rappelle le titre de votre livre publié aux éditions Plomb, « 100 dates de l'histoire de France qui ont fait le monde ». C'est formidable, ça permet d'acquérir une palette considérable de connaissances, vous touchez à de très nombreux domaines et je suis persuadé que cela peut faire une très belle idée cadeau pour les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas.
Ah, merci beaucoup, je vous remercie beaucoup.
Nous séparons en chanson avec Johnny Hallyday, titre de 1973, La musique que j'aime, et je remercie Thomas qui a réalisé cette émission.
Merci beaucoup, au revoir.
Thank you.